Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Nous sommes à Dakar cette semaine pour la formation de nos blogueurs Mondoblog. Parmi eux, il y a le Sénégalais Basile Niane qui est multi-blogueur et qui m'a aidé à préparer cette rencontre. Bonjour Basile.
Bonjour Ziad.
Nous sommes donc avec des acteurs et des spécialistes du web local. Depuis les révolutions tunisiennes et égyptiennes, beaucoup se demandent si le vent de liberté et de démocratisation, un vent numérique en partie au moins, va souffler au sud du Sahara. Les situations politiques et sociales sont tellement différentes d'un pays à l'autre que la question est forcément biaisée. Il n'empêche que l'actualité récente nous invite à faire le point sur ce que change ou pourrait changer le web, le net, la mobilité dans un pays comme le Sénégal. Basile, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, je pense que les choses bougent un peu partout, comme au Sénégal et comme dans les autres pays aussi, parce qu'on voit que les jeunes, en particulier des gens comme moi, sont tout le temps sur la toile, essayer de découvrir quelque chose de nouveau. Et je pense que d'ici quelques années, ça va vraiment, on aura vraiment cette révolution, surtout avec les nouveaux médias.
Voilà. Tout le temps sur la toile, il faut peut-être préciser. En préparant l'émission, tu m'as montré déjà beaucoup de pure players sénégalais. Des pure players, ce sont des sites d'information uniquement en ligne. Il y en a combien à peu près aujourd'hui qui se démarquent ?
Alors, il y en a beaucoup, hein, mais on peut noter en tête Seneweb, qui est le premier portail sénégalais d'information.
Serigne Diagne, voilà, de Seneweb devrait nous rejoindre.
Seneweb devait être là. Et moi, qui vous parle, je suis journaliste là-bas en même temps. Alors, après Seneweb, on voit des sites comme L'Héral, Presse Afrique ou bien Netali.net. Donc, ce sont des sites, mais il faut faire la différence entre le portail aussi et les journaux en ligne. Donc, ce qui fait que peut-être c'est ça qui a poussé Seneweb à être en tête des classements.
Sénéweb est un portail.
C'est un portail, donc il regroupe des informations différentes du site internet, du journal en ligne, de la personne qui prend des journalistes et qui écrit des articles en ligne. Donc il y a une différence.
Voilà. Et il y a aussi une forte vivacité sur Twitter. Aujourd'hui, nous sommes en public, on a informé de l'événement sur Twitter. Et il y a ce qu'on appelle un hashtag, donc un mot-clé qui est très utilisé par ceux qui tweetent au Sénégal, comme
alors,
toi.
Malheureusement, Cher n'est pas là, et Demba, parce que ce sont eux les initiateurs de ce hashtag qui s'appelle Kébetou. Kébetou, c'est donc un hashtag qu'on a créé en tant que blogueur, parce qu'il faut noter qu'on a une association des blogueurs. C'était un réseau, mais maintenant, on a fait une association pour mieux travailler avec les ONG, etc., et les gens qui sont intéressés par la toile. Alors, le hashtag Kébetou, c'est un mot wolof qui veut dire parler, papoter, comme gazouiller en Twitter. Donc, on a voulu...
Gazouiller, en fait, il voilà. faut expliquer. Donc, gazouiller, voilà. C'est ça que veut dire Twitter.
Voilà.
Twitter
vient de gazouiller, c'est le mot français. Et voilà, et ça représente Twitter. Alors, il y a beaucoup de gens maintenant, des Sénégalais qui sont présents sur le net et qui, pour vraiment se faire remarquer, ont utilisé le hashtag Kébetou qui est maintenant très connu, c'est pourquoi même j'ai nommé mon blog mondoblog.org par Kébetou pour dire que c'est donc un blog qui me permet de parler de tout ce qui tourne autour de moi au Sénégal ou bien dans les autres pays.
Voilà. Ça représente combien de personnes cette twittosphère, cette blogosphère sénégalaise ? Est-ce que toi tu as une vision générale ou c'est déjà beaucoup trop de monde pour avoir
alors,
une vision ?
Il n'y a pas beaucoup trop de monde, c'est trop dire pour le moment parce que les gens sont tout le temps sur Facebook, ils n'ont pas encore compris. Beaucoup de Sénégalais n'ont pas encore compris l'importance de Twitter.
Ou n'en ont pas besoin, en fait. Hein, aussi,
ça dépend. Hein, mais moi, je pense qu'on doit avoir besoin de cet outil parce que c'est plus rapide que Facebook. Et voilà, en 140 caractères, on fait passer un message. Mais Kébetou commence à prendre de l'ampleur quand même parce que les gens commencent à savoir ce Kébetou-là, comme la télé des médias l'a fait. Si aujourd'hui, la télé des médias a fait son premier tweet en utilisant Kébetou, ça veut dire que donc, les gens suivent vraiment ce fil d'actualité. On pense que ça va toucher bon nombre d'internautes.
Donc aujourd'hui, les gens qui, comme toi, sont sur Internet, travaillent pour différents sites d'information en ligne, etc. Vous êtes quoi ? Quelques dizaines de personnes, c'est ça, en gros, à Dakar, au Sénégal ?
Une vingtaine, peut-être, et bientôt une trente ou bien une quarantaine. Et il y a beaucoup de gens qui sont là. Donc au début, c'était simplement pour l'association des blogueurs. On s'est dit que le blogging, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Ouvrons les portes, mais il y aura quand même un petit bureau, des gens qui sont en tête pour vraiment diriger tout, mais permettre aux autres aussi de s'imprégner de Kébetou.
Bonjour Olivier Sagna.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences de l'information à l'université Cheikh Anta Diop et vous vous occupez aussi du site Osiris. C'est quoi Osiris ?
Oui, bon, Osiris, c'est une association observatoire sur les systèmes d'information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal, qui a été créée en 1998. Donc nous avons un site web sur lequel nous essayons de rassembler toutes les informations qui traitent de la problématique de la société de l'information au Sénégal, dans l'Afrique et éventuellement dans le monde. Et nous publions également, donc depuis maintenant plus de 10 ans, une lettre mensuelle d'information électronique qui s'appelle BATIC, bulletin d'analyse sur les technologies de l'information et de la communication, dans laquelle nous essayons de faire le point chaque mois sur ce qui se passe en termes d'actualité, en termes de politique, d'infrastructure, de services, les rendez-vous également, et avec un éditorial chaque mois qui traite d'une question particulière.
Comment, depuis le Sénégal, donc, vous avez observé ces révolutions où Internet, notamment Facebook et Twitter, ont joué un rôle très important. Comment vous les avez vécus vu d'ici ?
Ben, je les ai vécus avec beaucoup d'intérêt, et surtout en essayant de faire un petit peu une comparaison. La question a été soulevée par vous-même au début de l'émission et par beaucoup de personnes. Est-ce qu'il s'est passé le printemps arabe en Tunisie, en Égypte, en Libye et dans les autres pays ? Est-ce qu'on pourrait avoir, disons, des révoltes contre les régimes en place de la même ampleur qui pourraient être initiées à travers Internet et en particulier des outils comme Twitter et Facebook ? Et personnellement, l'analyse que je fais, c'est que je ne vois pas du tout ce type de phénomène se développer en Afrique subsaharienne. D'abord, tout simplement parce que les révolutions contre les régimes autoritaires en place, elles ont eu lieu en Afrique il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on l'oublie. Il y a eu les conférences nationales, il y a eu le renversement du régime dictatorial au Mali. Récemment, il y a eu des élections en Guinée. Je veux dire, il y a pas beaucoup de régimes, je dirais, véritablement aussi autoritaires que ceux qui pouvaient exister, par exemple, en Tunisie, en Libye ou en Égypte, en Afrique subsaharienne. Une presse, globalement, qui est beaucoup plus libre, quelle que soit la répression qu'il peut y avoir de temps en temps contre les médias, une floraison également de radio libre dans les langues nationales, une presse également très dynamique. Donc on n'a pas des situations, je dirais, aussi bloquées, aussi verrouillées que les pays d'Afrique du Nord, où les gens, pour contourner la censure, pour élargir la sphère publique, eh bien, on était venu à utiliser des outils comme Facebook et Twitter pour pouvoir s'exprimer librement et mobiliser les gens.
Politiquement, en tout cas, clairement, ce sont des contextes différents, et même peut-être socialement et en termes d'accès à l'éducation des populations, parce que ça aussi, c'est un facteur important pour comprendre ce qui a pu se passer en Tunisie ou en Égypte. Non,
tout à fait. J'ai l'habitude de dire sous forme de boutade que quand on parle de technologie de l'information et de la communication, la première technologie de l'information et de la communication, c'est l'écriture. Et on est dans des sociétés africaines où il y a encore une masse très importante d'analphabètes. Quand on regarde les chiffres, on compare le Sénégal et la Tunisie. Nombre de Sénégalais sur Facebook, à l'heure actuelle, on dit 450 000, mettons 500 000. En Tunisie, 2 millions. Pour des populations qui sont équivalentes. Donc on voit tout de suite qu'on n'est pas dans les mêmes contextes, je dirais, on joue pas dans les mêmes divisions, hein, pour reprendre une image du football. C'est une dimension effectivement qui est importante. On a vu qu'en Tunisie, ce qui est à la base de cette révolte populaire, c'est largement une jeunesse éduquée qui est allée à l'université, qui a des diplômes et qui ne trouve pas de travail. Dans bon nombre d'Afrique subsaharienne, les taux de chômage sont peut-être supérieurs, mais une large proportion de cette jeunesse, c'est une jeunesse qui n'est pas allée à l'école ou qui a été déscolarisé, donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes contextes, mais il est sûr que de plus en plus, ces outils Facebook, Twitter, le net vont jouer un rôle important pour la mobilisation de l'opinion publique dans les batailles politiques, idéologiques, syndicales, etc., etc., simplement parce que l'information qui sera sur ces réseaux est aussi relayée par la presse, par les radios, par le téléphone portable, qui est aujourd'hui le terminal le plus répandu dans un pays comme le Sénégal.
Est-ce que cet outil pour vous représente quand même des ruptures? De même qu'il a représenté une rupture politique dans les pays du nord du Sahara, est-ce qu'il peut représenter une rupture sociale, une rupture à d'autres niveaux dans un pays, ou est-ce que vous avez déjà pu observer ça au Sénégal, par exemple ?
Oui, je crois qu'il y a des ruptures. On est aujourd'hui en présence d'outils, je dirais, qui permettent à tout un chacun, à condition de ne pas avoir de délestage, à condition de pouvoir s'acheter un ordinateur, à condition de savoir utiliser l'ordinateur.
Ou un téléphone portable.
Ou un téléphone portable, à condition de savoir lire et écrire, de s'exprimer, de donner son point de vue librement. Et ça, c'est une ruptures structures extrêmement importantes, je dirais tous les médias au sens large qui existaient auparavant, pour s'exprimer à travers ces outils, il fallait que l'information soit validée. C'est vrai pour l'information scientifique dans l'université, mais c'était vrai dans un journal, la rubrique des lecteurs, ben, le comité de rédaction recevait une lettre de lecteurs et décidait oui ou non de la publier. Dans une radio, n'importe quel citoyen ne pouvait pas venir et exprimer son point de vue, y compris quand il y a des radios trottoirs, parce que c'est des sélections qui sont faites par les journalistes. Là, sur Internet, ça avait commencé déjà, je dirais, à l'époque du web. Chacun avait la possibilité de créer un site web. C'était relativement lourd. Après, ça a été plus facile avec les blogs. Et puis aujourd'hui, on a Facebook, on a Twitter, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on aura demain. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des outils aussi qui apparaissent, qui sont la killer application pendant une, deux ou trois années, et qui disparaissent sans que personne...
La killer application, ça veut dire l'application en vogue, en gros,
voilà, qui
détrône les autres.
En vogue, qui détrône les autres, qui est vraiment celle utilisée par tout le monde.
Bonjour Montaga Cissé.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Atelier des médias, on s'est déjà parlé, notamment à l'occasion du Barcamp que vous avez co-organisé ici au Sénégal l'an dernier.
Oui, exactement. J'ai participé au dernier Barcamp, qui est une manifestation qui regroupe des blogueurs, des passionnés du web. Aujourd'hui, je participe à cette émission pour parler de la révolution. Est-ce qu'au Sénégal, ce qui se passe dans le monde arabe peut arriver chez nous? Mon point de vue, je ne pense pas que ça puisse arriver parce que, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, les modalités de fonctionnement, les cultures ne sont pas les mêmes. Et puis également, il y a autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est le taux d'illettrisme au Sénégal est assez important quand même. On pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sur Internet, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il y a une petite communauté, donc cette communauté-là, je ne pense pas qu'elle puisse pousser le reste de la population à offrir cette révolution-là. Et puis également, ce qui s'est passé dernièrement, le 19 mars, l'a encore prouvé.
Donc le 19 mars, c'est une manifestation, trois manifestations en fait, contre le régime en place.
Oui, exactement, parce que c'était la 11e anniversaire donc de l'alternance, de l'entrée au pouvoir du président actuel sénégalais. Sur Internet, on a couvert l'événement, on a senti que ça allait un peu dégénérer, mais en réalité, rien ne s'est passé, tout s'est passé dans l'ordre, et puis on est sorti de ce 19 mars tranquille aujourd'hui. Je ne pense pas qu'au Sénégal, que cette révolution puisse arriver aujourd'hui.
Vous, Montaga, vous êtes donc arrivé avec votre téléphone dans la main, vous avez déjà envoyé plusieurs tweets depuis que vous êtes ici, vous êtes actif sur Internet, vous regroupez les blogueurs, les gens qui s'intéressent aux nouvelles technologies autour de vous. Quel rôle, quelle place vous voyez dans la société sénégalaise?
Je pense que nous sommes un peu les suiveurs des pionniers comme Olivier, parce qu'ils font partie de ceux qui ont amené l'Internet au Sénégal. C'est la seconde génération. Je suis membre fondateur de l'Association des blogueurs du Sénégal. Donc, avec les nouveaux outils qui s'offrent à nous, on essaye d'amener les gens sur Internet en utilisant les médias traditionnels dans un premier temps. On parle beaucoup du web dans les médias traditionnels. Beaucoup de journaux papiers commencent à avoir leur version Internet, parce qu'avant c'était juste une copie de la version papier, mais aujourd'hui les journaux en ligne commencent à se développer, Basile l'a dit tout à l'heure. Donc nous on essaye de sensibiliser les gens, de leur montrer qu'avec Internet on peut faire plein de choses, et puis ça participer au développement.
Qu'est-ce que vous venez de finir sur participer au développement, mais qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter au pays? Parce qu'on sent dans votre démarche et dans la démarche de beaucoup d'entre vous que vous êtes très militant, très actif, vous revendiquez énormément, vous organisez des réunions, des rencontres, vous êtes très militant également sur Internet, sur Twitter. Qu'est-ce que vous voulez apporter à votre pays?
Ce qu'on va apporter, c'est montrer d'abord que l'Afrique a actuellement peut accéder à l'information, peut accéder aux technologies au même niveau que les autres pays. Au Sénégal, on a la chance d'avoir un accès à Internet intéressant, même si c'est encore cher, il faut le dire, même si le débit n'est pas encore si élevé.
Et même s'il dépend encore beaucoup de l'accès à l'électricité.
Exactement, c'est un problème crucial ces temps-ci. Donc, nous, on essaye de montrer que l'Internet peut être un facteur de développement, parce que ça peut être un outil d'information, ça peut être un outil de sensibilisation, ça peut être aussi un outil de décision pour les pouvoirs publics.
Bonjour Ibrahima Ali Safai.
Bonjour Ziad.
Votre nom de code à vous, c'est Presse Afrique.
Oui, c'est Presse Afrique.
Qu'est-ce que c'est d'abord Presse Afrique?
Presse Afrique, c'est un journal en ligne lancé depuis maintenant 2008. Alors, on fait de l'information générale, Mais ma spécialisation, c'est beaucoup plus les technologies de l'information et de la communication. Mais Presse Afrique fait de l'information générale.
Alors, on a parlé avec nos invités jusqu'à maintenant donc de ce que peut apporter le web à un pays comme le Sénégal. On a fait un petit peu la comparaison avec ce qui s'est passé en Afrique du Nord. Est-ce que, tout simplement, le web contribue à une certaine liberté d'expression, une plus grande liberté d'expression pour des personnes comme vous au Sénégal, pour des journalistes?
Oui, effectivement, le net contribue à, disons, à la liberté d'expression au Sénégal. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller à la radio ou en tout cas dans un autre média pour dire ce qu'on pense. Là où on est, en tout cas, on a simplement besoin d'un accès, d'une connexion pour dire exactement ce qu'on pense. Alors, on utilise très souvent Twitter ou Facebook pour s'exprimer. Et de plus en plus, les jeunes sont connectés sur Facebook et discutent et donnent leurs avis qui sont également discutés et échangés. Et donc, je peux dire qu'actuellement, sans complexe, les gens disent ce qu'ils pensent. C'est vraiment discuté. Maintenant, si ce qui a été vécu au Maghreb, c'est-à-dire le printemps du Maghreb, peut arriver au Sénégal, je pense qu'on n'est pas encore à ce stade. Parce que ici, quand même, je pense que Facebook, son taux de pénétration, c'est 3,25%. Et donc, ça reste encore. Hein? Ça reste encore. Et peut-être bien que d'ici quelques années, on aura plus de 2000, disons, inscrits sur Facebook, comme la Tunisie, qui est.
2 millions, oui.
Oui, qui est actuellement, disons, premier en Afrique. Et donc, à ce moment-là, je peux dire quand même que cela peut arriver au Sénégal. Mais présentement, quand même, c'est assez prématuré.
Est-ce qu'il existe des limites à la liberté d'expression, y compris en ligne, au Sénégal, dans ce pays?
En fait, la liberté d'expression, même si les gens tentent, ils ne peuvent pas. Parce qu'en ligne, quand même, les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent et ils le disent de manière, disons, spontanée. Maintenant, c'est par, disons, des liens de parenté ou par des connaissances, une amitié qu'on a au sommet ou en tout cas à la périphérie, où on vous dit, mais attends, comment pouvez-vous mettre ça en ligne et vous appeler, disons, entre guillemets, les gens à la révolte? Par exemple, moi, ça m'est arrivé.
Mais vous avez envoyé cela sur Twitter?
Sur Facebook et sur Twitter. Mais en moins de 5 minutes, j'ai reçu 5 appels. 5 appels provenant, en tout cas, des gens du pouvoir qui me disent, mais attends, mais toi, quand même, tu ne veux pas faire ces choses-là. Tu es journaliste et puis quand même, tu as presque 2000 abonnés sur ta page Facebook. Et je leur ai dit, mais en tout cas, si vous ne voulez pas que je fasse ces choses-là, réglez les problèmes d'électricité. Je suis moi dans ces difficultés-là, mais vous ne pouvez pas savoir les autres, les difficultés qu'ils ont. Par exemple, ceux qui sont à l'hôpital ou ailleurs. Et donc, il faut régler ce problème-là.
En tout cas, ce qu'on remarque, et on le disait avec Basile au début de l'émission, c'est qu'il y a un foisonnement de sites d'information au Sénégal, de sites d'information en ligne comme le vôtre. Comment ça s'explique, ça?
En fait, le foisonnement, les gens pensent peut-être qu'il y a quelque chose à gagner dans les sites d'information, alors ils se lancent dedans. Or, c'est pas encore le cas.
C'est-à-dire qu'on ne gagne pas d'argent, quoi.
En tout cas, c'est pas encore le cas. S'il y a un site actuellement qui gagne de l'argent, c'est Sénéweb, à la limite Nathalie, n'est-ce pas? Mais pour beaucoup de sites d'information, je peux dire que c'est presque la galère, quoi. Donc, le net, en tout cas, la presse en ligne est encore assez balbutiement au Sénégal. Il faut encore au moins 2 ans pour que les gens connaissent et acceptent d'y investir. Mais de plus en plus, les gens commencent quand même à se connecter, à aller sur la presse en ligne pour se connecter. Et pour le savoir, pour en avoir le cœur net, de 9h à 16h, même vous avez des pics. Vous avez des pics sur les sites.
Qu'est-ce qui intéresse les gens sur l'Internet sénégalais?
La politique et le sport.
La politique et le sport?
Le sport, surtout. À moins qu'il y ait de grands événements comme par exemple la Côte d'Ivoire, c'est la politique et le sport.
Olivier Sania, vous voulez peut-être dire un mot sur ce qu'apporte ou ce foisonnement de médias en ligne au Sénégal ?
Oui, enfin, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a un taux de natalité qui est extrêmement fort, il y a un taux de mortalité qui est également extrêmement fort. Donc ce foisonnement, effectivement, on a beaucoup de gens qui créent des sites, qui lancent des initiatives, et puis, bon, ben, au bout de quelques semaines, quelques mois, je dirais des fois un an, deux mois, ces initiatives disparaissent. Il faut dire aussi qu'il y en a beaucoup qui ne font pas preuve véritablement d'originalité. Il y a des tas de gens qui veulent, je dirais, bon, refaire scène web, enfin, refaire des portails dans lesquels ils agrègent l'information qui provient d'autres sites. Bon, il n'y a pas véritablement de valeur ajoutée. Sinon, ce qui a été dit sur les contenus en ligne, c'est aussi, je dirais, c'est la déformation de la presse analogique. Quand vous lisez la presse papier, bon, mais c'est la politique. Et quand on dit le sport, c'est en gros c'est la lutte et le football. Voilà, et on a l'impression qu'il ne se passe que ça au Sénégal. Il y a très peu de choses sur la dimension culturelle, les problèmes économiques, etc. Donc ça reflète un petit peu ce que l'on trouve dans la presse papier, ce que l'on trouve dans les radios. Alors les patrons de presse vous diront qu'il y a la tyrannie de l'audimat pour la radio ou pour le lectorat et qu'il faut mettre dans les journaux ce que les gens veulent voir ou passer dans les radios ce que les gens veulent écouter. Et puis sinon, c'est aussi sur la... Il n'y a pas de censure sur Internet, il n'y a pas de dispositif étatique, on n'est pas dans un pays dans lequel on filtre les adresses IP, dans lesquelles il y a des représailles. Maintenant, c'est quand même intéressant de voir que la plupart des gens qui se sont lancés sur Internet, généralement les portails en ligne, ont été hébergés à l'extérieur. Bon, ça présente quand même une certaine sécurité, on ne peut pas avoir un accident qui fait que la liaison Internet...
C'est-à-dire que l'hébergeur du site est toujours à l'étranger
Pour la plupart, quand on regarde là où sont hébergés les grands sites d'information en ligne, ils sont à l'étranger, donc pas de possibilité pour le gouvernement, je dirais, de couper l'accès à ces sites. Et puis c'est quand même pas dans les traditions. Là où il y a la censure, c'est dans les médias publics. Je veux dire à la télévision d'État, dans le quotidien national, bon, à la radio, bon, ben là on ne passe que certaines informations et d'autres en ont fait abstraction. Je veux dire le reste du paysage médiatique, que ce soit les télévisions, radios, journaux et sur Internet, il y a eu la plus grande liberté. Maintenant, effectivement, il y a les pressions amicales. Nous, au niveau d'Osiris, des fois, on fait des éditos qui ne plaisent pas. Alors, on a des gens de la présidence de la République par des moyens détournés qui vous disent que oui, mais ce que vous avez mis, quand même, bon, ça pose problème. Vous auriez pu vous rapprocher de nous pour avoir des informations. Mais on ne peut pas parler véritablement de censure.
Je veux bien qu'on termine en disant un mot sur la mobilité, parce que un des grands enjeux du développement de l'accès à Internet et de l'Internet au sud du Sahara, c'est l'accès à la 3G ou à voilà, ce n'est pas l'ordinateur, mais c'est souvent le téléphone. Où est-ce qu'on en est de ça aujourd'hui, Olivier Sagna?
Bien, bon, pour la 3G, on peut dire qu'un pays comme le Sénégal était relativement en retard, puisque elle a été introduite uniquement par le troisième opérateur il y a de cela à peine 2 ans, et que l'opérateur historique vient officiellement d'avoir une licence 3G et les clés qui permettent de se connecter un peu partout à Internet.
Donc la 3G, c'est un protocole qui permet d'aller sur Internet via un mobile, en gros.
Voilà, effectivement, les tarifs sont relativement coûteux. Il faut voir que si une grande partie de la population dispose de téléphones portables. Beaucoup de gens ont des téléphones qui coûtent de l'ordre de 20-30 euros et qu'ils utilisent uniquement pour téléphoner et envoyer des SMS. Mais il est clair justement que peut-être le terminal à travers lequel on peut avoir un impact le plus important sur la population, c'est effectivement la téléphonie mobile. Maintenant, ce qu'il manque aujourd'hui, ce sont les services adaptés. Je ne sais plus si c'était en coulisses ou sur scène, on se demandait, mais pourquoi est-ce qu'il y a si peu de Sénégalais qui vont sur Internet, sur Facebook ou sur Twitter? Moi, je pose toujours la question de l'utilité. C'est-à-dire, on ne va pas sur l'Internet pour aller sur Internet. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme service, comme application utile pour un citoyen ou une citoyenne sénégalaise qui ferait qu'il irait régulièrement sur Internet? Il y en a très peu.
Donc, ça, il y a notamment le téléphone.
Voilà. Alors, il faut, je dirais, c'est un petit peu aux gens qui sont dans le secteur des services de développer des applications qui sont des applications intéressantes et aussi avec des modalités qui font qu'elles sont un succès. Le transfert d'argent qui marche très bien en Afrique orientale et australe.
Où le téléphone sert en fait M-Pesa, de porte-monnaie.
Voilà, de porte-monnaie électronique pour transférer de l'argent. Ça ne marche pas au Sénégal parce qu'on est dans des logiques propriétaires. Et quand on est chez un opérateur, on peut payer des factures pour deux ou trois firmes, mais ça ne présente pratiquement aucun intérêt.
Alors que dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, c'est devenu le moyen de paiement par excellence.
C'est le moyen de paiement par
Et l'accès à la banque pour beaucoup de gens.
Voilà.
Ibrahima ?
Oui, en fait, je dois dire qu'effectivement, que la 3G, c'est nouveau, hein, c'est nouveau au Sénégal. Juste que la Sonatel était en train d'expérimenter ça en 2008, en septembre 2008 déjà. Donc, c'était seulement quelques coins de Dakar. Après, il a fallu qu'il y ait un troisième opérateur pour vraiment généraliser. Et donc, je peux dire même, compte tenu de l'expérience qu'on a des deux services, je ne mettrai pas à comparer. Mais de toute façon, on sent là où il y a vraiment la qualité. Et moi, je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup plus. Et effectivement, quand on propose, disons, de la connexion, il faut quand même des services pour que les gens puissent l'utiliser. Et c'est ce qui manque le plus. Moi, j'ai eu à, disons, faire le monitoring de l'ensemble des statistiques de la presse en ligne. Mais on constate que le mobile est en train vraiment de percer. Il n'y avait que 1000 ou 2000 visiteurs par mois. Maintenant, on en est à plus de 5000 par mois. Et donc, c'est quand même assez important. Et il y a aussi l'iPad qui est en train de faire aussi une percée notable.
Merci à tous d'avoir été avec nous. On retrouve sur l'atelier des médias des liens vers vos médias respectifs et bien sûr la version longue de cette table ronde. Merci. C'était l'émission 176 de l'Atelier des médias proposée par Simon Decreuse et Ziad Malouf. Merci à tous les mondoblogueurs présents à Dakar. Merci aussi à l'Institut français de Dakar et à Étienne Rougerie de l'ambassade de France. Vous le savez, quand c'est fini ici, ça continue sur Internet. Vous tapez Atelier des médias ou mondoblog.org dans votre moteur de recherche et vous arrivez chez vous. Salut à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Non, ça continue sur Internet.
Ah, des bonus!
Oui!